vous informe.
En Israël, Tzahal a décidé de renforcer sa présence en Judée-Samarie au lendemain d'un attentat commis au carrefour de Tapouar. Un attentat lors duquel 3 Israéliens ont été blessés par des tirs depuis une voiture. Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque contre les 3 Israéliens au carrefour de Tapouar, mais Yigal Dilmoni, le chef du conseil de Yesha, cette association qui représente les Israéliens résidant en Judée-Samarie, a accusé l'autorité palestinienne et ses amis du Hamas qui contrôlent la bande de Gaza. Il faut savoir que la journée de Jérusalem sera célébré lundi prochain et le groupe islamiste a déjà mis en garde contre la présence d'Israéliens sur le mont du Temple ce jour-là, promettant d'incendier la région et de provoquer des émeutes. C'est en tout cas ce que rapporte la 12e chaîne israélienne. Toujours en Israël, les drapeaux étaient en berne hier pour une journée de deuil national suite à la catastrophe du mont Meron vendredi où 45 personnes ont perdu la vie. Désastre, tragédie, échec gouvernemental, les unes de la presse israélienne étaient toutes barrées de noir hier soir. Des premières funérailles ont déjà eu lieu dès vendredi en après-midi et après une pause pour Shabbat, les enterrements ont repris samedi soir. Les autorités ont annoncé hier soir avoir fini l'identification des morts, incluant notamment 4 Américains et 2 Canadiens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié cette tragédie de l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire d'Israël depuis sa création en 1948. Et par rapport à cela, le ministre de la Défense Benny Gantz a fait appel au procureur général Avichai Mandelblit pour qu'il donne son avis juridique sur la possibilité de former une commission d'enquête d'État sous le gouvernement de transition afin de faire la lumière sur cette tragédie. Il est urgent de former rapidement un comité pour qu'il puisse mener une enquête préliminaire. Alors que les informations sont disponibles, ce sont les mots de Benny Gantz et aujourd'hui le contrôleur de l'État, Matanyahu Engelmann, a annoncé la mise en place d'un audit visant à examiner les circonstances qui ont conduit à la catastrophe au mont Meron. En Belgique, le ministre président bruxellois Rudy Vervoort s'est dit hier favorable à l'introduction en Belgique d'un système de coronapass tel qu'appliqué au Danemark. Pour ceux qui ont été vaccinés, cela doit se traduire par un changement. On ne peut pas leur dire qu'il faudra attendre que les sceptiques se décident. À partir du moment où toute la population aura eu l'opportunité de se faire vacciner, à ce moment-là, il me semble tout à fait légitime de mettre en place un système de ce type-là. C'est ce qu'a déclaré Rudy Vervoort en estimant que l'introduction de ce coronapass ne pourrait toutefois se faire que de manière ordonnée et en articulation avec le certificat européen que la Commission européenne a présenté pour faciliter les voyages à l'étranger. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi, Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant, à tout à l'heure.
Bonjour Clément, bonjour Isaac.
Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour à tous nos auditeurs.
Alors Isaac, plusieurs sujets vont nous occuper pour l'heure qui nous est confiée. Le premier, celui qui concerne Human Rights Watch, cette organisation humanitaire, enfin soi-disant humanitaire, qui vient de publier un rapport où ils accusent Israël d'être un État d'apartheid, rien moins que ça. Donc on parlera bien évidemment de cette organisation scélérate. On parlera bien évidemment aussi un peu des États-Unis. Il y a plusieurs dossiers qui nous intéresseront là-bas. Celui d'une intervention de John Brennan, l'ancien directeur de la CIA sous Barack Obama. D'un discours très remarqué de Tim Scott, probablement peu connu de nos auditeurs, mais quelqu'un à surveiller dans le parti républicain, qui a fait un discours, le pendant du discours de Joe Biden, mais qui a récolté des réactions plutôt racistes à son égard, puisqu'il faut savoir que Tim Scott est un sénateur noir du parti républicain. On parlera peut-être aussi de cet audit qui a démarré. Ça surprendra, je crois, pas mal d'auditeurs, mais un audit démarre en Arizona, dans le comté le plus important de l'Arizona, Maricopa, là où se trouve Las Vegas, pour recompter, revérifier les résultats des élections de 2020. On fera un petit point sur ce sujet également. Après les États-Unis, on parlera, bon, c'est lié évidemment, du dossier iranien, également de John Kerry, qui est intimement lié à ce dossier, puisqu'il y a des petits scandales à répétition qui touchent le personnage. Et on terminera alors avec le Moyen-Orient, le report, ou probablement ou l'annulation, des élections palestiniennes. On en avait parlé à plusieurs reprises dans cette émission, mais elles se sont confirmées. Et les toutes dernières informations concernant les tentatives de formation d'un gouvernement en Israël. Voilà, Isaac. Alors commençons donc par Human Rights Watch, cette organisation importante, hein, puisqu'elle a quand même une aura dans le monde entier, un budget d'environ 100 millions de dollars, avec d'ailleurs des financements parfois un petit peu occultes, on n'est pas toujours très très sûr de d'où viennent ces financements, en tout cas une grosse organisation humanitaire, mais qui a toujours eu une obsession anti-israélienne, en tout cas toujours, c'est pas vrai, depuis que l'actuel directeur de cette organisation, un dénommé Ken Roth, en a pris la direction, je crois dans les années 90 environ. Obsession anti-israélienne à tel point que le fondateur même de cette organisation
l'a dénoncé.
La dérive. Je crois que c'est un Robert Bronstein, je pense. Il y a une dizaine d'années, exacerbé par cette obsession anti-israélienne, avait quitté l'organisation et dénoncé cette obsession dont faisait preuve ce Kenneth Roth. Mais voilà, donc il publie un rapport. À grand regret, disent-ils, hein, des chaudes lames de crocodile, soi-disant, ils arrivent à la conclusion qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accuser Israël d'être un régime d'apartheid. Alors ils sont deux fois scélérats, parce que bon, clairement, on sait qu'Israël n'est bien évidemment pas un état d'apartheid, mais ils sont scélérats pour une deuxième raison, parce que eux-mêmes savent très bien que dès lors qu'on parle d'apartheid, c'est tout de suite à l'Afrique du Sud que l'on songe. Un régime effectivement raciste, ségrégationniste, tortionnaire, où toutes les lois, où tous les droits civiques des habitants noirs, et pas que noirs d'ailleurs, même les Indiens et autres minorités, étaient bafoués, il n'y avait pas de droit de vote, pas de droit de manifestation, pas de liberté de la presse. Donc un État véritablement inique, et tout le monde sait évidemment qu'Israël c'est tout le contraire de ça, mais quand on leur fait remarquer évidemment qu'il est impossible de comparer un État comme Israël à ce régime que je viens de décrire, ils disent « oui mais nous sommes tout à fait d'accord ». C'est pas à l'Afrique du Sud que nous nous référons lorsqu'on accuse Israël d'être un État d'apartheid, c'est à une définition un peu vaseuse des Nations Unies, qui date des années 70, qui a été signée par environ 60 ou 70 pays. Une grande partie des pays occidentaux, d'ailleurs, a refusé de le signer. Et c'est contre cette définition-là, beaucoup plus vaseuse, qu'on peut utiliser à n'importe quel dessein, d'ailleurs, qu'on se réfère pour accuser Israël d'apartheid, alors qu'on sait très bien que personne ne connaît cette définition, et que tout le monde, immédiatement et instantanément, lorsqu'on parle d'apartheid, se référera au régime raciste, ségrégationniste de l'Afrique du Sud.
Bien sûr, personne n'est dupe. Personne n'est dupe. C'est une attaque frontale sur la légitimité de l'État d'Israël. Alors, vous dites, il se réfère à une autre définition de l'apartheid que celle à laquelle chacun est renvoyé automatiquement, parce que chacun va penser naturellement au régime d'apartheid d'Afrique du Sud de 1947 à 91, si ma mémoire est bonne. Mais c'est également une nouvelle définition de l'État d'Israël. Parce que dans leur rapport, d'ailleurs, ils parlent de la situation des droits de l'homme « from the river to the sea », c'est-à-dire du Jourdain à la mer Méditerranée, comme si il n'y avait pas trois entités politiques dans cette surface, dans ce territoire. Il y a en effet trois régimes politiques. Il y a un régime à Gaza, parfaitement autonome, parfaitement indépendant, qui gère la vie de un peu plus de 2 millions d'Arabes palestiniens. Et puis, il y a l'autorité palestinienne en Judée-Samarie qui gère ou qui s'occupe de la vie quotidienne de à peu près 90 à 95% des Palestiniens qui vivent en Judée-Samarie, ce qui fait aussi plus de 2 millions et demi de personnes. Et puis, il y a naturellement les autorités politiques israéliennes. Mais pour pouvoir décréter que Israël est un État raciste, un État d'apartheid, il faut considérer que Israël part du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée et que partant de cette affirmation, il y aurait à peu près 7 millions de Juifs, il y aurait 7 millions d'Arabes palestiniens, et dans ce cas, si ces Arabes palestiniens ne disposent pas de droits politiques égaux à ceux des Juifs, eh bien, il y a des citoyens de première zone, les Juifs, et des citoyens de seconde zone, les autres. Et donc, il y a un régime d'apartheid. Donc, il faut redéfinir Israël comme un État
unique. C'est pas la solution à deux États, c'est la solution à un État. Ça veut dire qu'Israël, ce serait en réalité la Judée-Samarie, Israël dans les frontières internationalement reconnues, si frontières il y a, plus Gaza. Et donc il faut installer dans l'esprit que Israël, en réalité, gère, s'occupe, dirige la vie de 2 200 000 Palestiniens dans la bande de Gaza, sur lesquels Israël n'a strictement aucun pouvoir ni aucune influence, puisqu'il dépend directement du Hamas. Même chose pour la zone A et B, où il y a l'essentiel de la population palestinienne de Judée-Samarie, et qui dépend des décisions prises de façon très très autonome par l'autorité palestinienne. Mais on veut construire cette fiction qu'en réalité, ces trois pouvoirs n'existent pas et qu'il n'en existe qu'un seul. Et partant de cette présentation tout à fait fallacieuse, et ils n'ignorent pas qu'elle est fallacieuse, ils peuvent alors tranquillement dire il y a effectivement deux régimes entre deux types de citoyens, les juifs d'une part, les autres de l'autre. Donc c'est véritablement rapport scélérat. Il ne nous étonnera pas beaucoup qu'ils suivent également un rapport tout à fait semblable qui avait été rédigé par Betselem, où il disait la même chose. Il annonçait la couleur. En réalité, Betselem annonçait le rapport qui allait venir quelques mois plus tard par HRW, Human Rights Watch. Il dit exactement la même chose. C'est la première fois que, sous la plume de Human Rights Watch, on trouve cette affirmation « Israël est un État d'apartheid ». Donc il y a un agenda politique très, très clair. Cela montre que l'angle d'attaque contre l'État d'Israël à venir, celui qui désormais sera à la mode, ce sera la collection d'été ou la collection des années à venir pour s'attaquer à la légitimité de l'État d'Israël, c'est de prétendre que Israël est un État d'apartheid.
Tout à fait. C'est dans la droite, parfaite droite ligne également de l'inculpation d'Israël au Tribunal pénal international, qui est également.
Bien sûr.
C'est dans le même esprit.
C'est une attaque concertée. Bien sûr, c'est une attaque concertée. Dans un cas, on attaque la légitimité de la présence juive en Judée-Samarie. On attaque le droit, non pas la manière dont Israël se défend contre les agressions dont il est victime, mais en réalité, ce qui apparaît derrière l'attaque de la CPI, de la Cour pénale internationale, ça n'est pas de savoir si les Israéliens ont respecté la loi de la guerre ou pas les lois de la guerre. En réalité, ce que la CPI interroge, c'est le droit d'Israël à se défendre. C'est de cela dont il s'agit.
Alors, on sait que le personnage qui est à la manœuvre, au-delà de Ken Roth, qui est le directeur de cette organisation, c'est Omar Shakir, un triste personnage également, puisque c'est un activiste BDS de la première heure.
Qui a été expulsé, d'ailleurs, d'Israël.
Expulsé d'Israël, pas expulsé de HRW.
Non, hélas, non, mais d'Israël.
Au contraire, hein, il a été totalement soutenu par cette organisation, puisqu'il avait été recruté par Ken Roth pour être le représentant, le correspondant de HRW en Israël même. Et lorsqu'on a découvert effectivement qu'il était un activiste BDS, ben Israël, selon sa politique concernant les activistes BDS, l'a expulsé. Donc on sent bien également cet esprit revancheur dans ce rapport, où on sent que cet individu n'avait de cesse que de trouver un moyen de vraiment nuire à l'État d'Israël.
Ce qu'il faut aussi rappeler à notre mémoire, c'est que ce rapport de Human Rights Watch, il est, si vous voulez, le prolongement d'une résolution de l'Assemblée des Nations Unies de 1975 qui dressait une équation absolument scélérate entre le sionisme et le racisme. Rappelez-vous, il a fallu 16 ans, de 1975 à 1991, pour qu'enfin cette résolution, la 3379, si mes souvenirs sont bons, soit enfin annulée. Donc, sionisme égale racisme, eh bien ce que Human Rights Watch dit, il y a du racisme en Israël, il y a même un racisme institutionnalisé, ça s'appelle l'apartheid. C'est exactement la même chose, c'est une ressucée de cette décision prise par l'Assemblée Générale il y a de cela plus de 45 ans. Donc, rien de nouveau sous le soleil, ça veut dire que Israël est toujours ciblé, toujours visé, suscite toujours les mêmes obsessions, de la part de ceux qui ne se font pas à l'idée que les Juifs ont recouvré leur indépendance et leur souveraineté sur leur terre ancestrale.
Et si je ne me trompe, je pense qu'ils reprochent même la loi de retour, qui date de, je crois, de 1950, qui avait été instituée pour effectivement offrir un refuge à toutes les victimes de l'Holocauste, mais au-delà également, pour permettre aux Juifs du monde entier, pour qu'ils soient éventuellement victimes d'oppression là où ils se trouvent, bah, d'avoir un pays, un foyer, où ils peuvent en toute sécurité venir habiter. Eh bien, cette loi-là également est considérée par Omar Shakir et Ken Roth comme une loi raciste.
Alors qu'il y a une convention internationale de 1964-1965 qui donne parfaitement le droit parfaitement légitime à un gouvernement de favoriser certains groupes de population pour homogénéiser sa population et pour lui donner ou renforcer son identité. Donc il n'y a strictement rien de raciste, il n'y a strictement rien d'apartheid en Israël, et Israël ne gère pas, ne dirige pas, ne s'occupe pas de la vie quotidienne des Palestiniens, qu'il s'agisse de la Judée-Samarie ou de la bande de Gaza, à moins de considérer que, à partir du moment où Israël contrôle ses frontières, ou contrôle l'accès d'Israël vers la bande de Gaza, ou vice-versa, ou d'Israël vers la zone A et B de Judée-Samarie, on considère que ce contrôle équivaut à une occupation. Et en réalité, c'est ça qui apparaît en filigrane du rapport, c'est que cette occupation fait d'Israël un état d'apartheid, puisqu'il gérerait la vie de 14 millions d'habitants.
Et on sait quand même que dans cet état d'apartheid, des lois très proches des lois de Nuremberg avaient été votées. Hein, il y avait une interdiction pour les mariages mixtes, il y avait une interdiction de relations sexuelles mixtes, et il y avait même une interdiction de cohabiter dans les mêmes quartiers, pour peu qu'on soit de races différentes. Et c'est à cet état-là que voudrait nous faire comparer cette organisation HRW. Vraiment, je pense qu'ils ont... J'ai l'impression qu'ils ont peut-être dépassé les bornes, même pour par rapport à leur historique. Je pense que là, ils ont peut-être, propre bien, dépassé les bornes.
J'aimerais le penser. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans cette espèce de délire, dans cette obsession que suscite Israël dans certains esprits fragiles, non, ils n'ont pas franchi les bornes. Au contraire, je veux dire, le silence qui accompagne la sortie de ce rapport, l'indifférence presque, l'absence de réaction, l'absence d'indignation pour dire, mais enfin, avec quoi vous venez ? 45 ans après la 33-79, l'Assemblée Générale qui comparait le sionisme au racisme, vous revenez avec cette insanité. Personne n'a réagi. On trouve ça normal. Ça ne suscite pas d'indignation.
Alors, sur le même thème, je mentionnais John Brennan dans notre introduction, donc l'ancien directeur de la CIA sous Barack Obama, qui a écrit un op-ed dans quel journal ?
New York Times.
Dans le New York Times, évidemment.
Oui, vous avez raison, ça aurait pu être le Washington Post.
Ça aurait pu être le Washington Post, voilà. Tout à fait. Où il aurait pu apparaître à CNN.
Oui.
Enfin, il avait le choix de l'embarras, comme on dit. enfin, John Brennan, en tout cas, s'est fendu d'un op-ed où il estime que les Israéliens devraient effectivement faire preuve de beaucoup plus de compassion que le reste du monde, parce que leur passé est tel qu'ils devraient comprendre mieux que les autres, ce que ça veut dire que d'être un peuple opprimé, Isaac.
Alors, c'est exactement. Un peu plus de... Mais c'est une des définitions de l'antisémitisme donnée par le fameux refusnik russe, Nathan Sharansky, lorsqu'il définissait l'antisémitisme par les 3D. Un de ces 3D, c'est le double standard. Donc ce que dit John Brennan très clairement, ancien patron de la CIA sous Barack Obama, c'est les Juifs, compte tenu de leur passé de persécution, de discrimination, d'éradication, eh bien, eux devraient avoir un sens tout spécial d'empathie et de compassion auquel les autres peuples ne seraient pas astreints. C'est-à-dire que les Juifs doivent plus rendre compte de leurs faits et gestes au nom de leur passé. C'est-à-dire que les victimes sont tenues de répondre plus de leurs actes que les bourreaux, c'est-à-dire que les Juifs sont plus appelés au respect de la sainteté que leurs bourreaux. C'est-à-dire que les Allemands, les nazis, eh bien, eux ne sont pas astreints à cette exigence, et que si Israël ou le peuple juif ne satisfait pas aux attentes que place sur lui un John Brennan, eh bien, ça questionne sa légitimité. Donc, c'est véritablement un des 3D, ce qui définit l'antisémitisme, c'est d'attendre d'une population, ou d'un peuple, d'une collectivité, ce qu'on attend de nul autre.
Alors, sur ce thème du racisme, il y a également eu un autre discours, une autre intervention qui a suscité beaucoup de réactions aux États-Unis. Oui. Donc, c'est celle de Tim Scott, un républicain noir, je crois de la Caroline.
Du Sud.
Du Sud. donc un sénateur de la Caroline du Sud, je crois le seul sénateur noir républicain, je pense.
Il est représentant, je pense.
Non, sénateur.
Il est sénateur.
Sénateur de la Caroline du Sud, et qui avait été choisi par son parti pour faire le pendant du discours de Joe Biden. Donc Joe Biden a fait son grand discours, si je puis dire, après 100 jours de présidence. Il a fait un grand discours de politique générale, si je puis dire. Et Tim Scott avait été donc sélectionné par les Républicains pour lui donner réponse à son discours. Un très bon discours de Tim Scott, où il essaie de rappeler les valeurs républicaines. Et bien évidemment, il a déchaîné les passions côté démocrate et de la gauche radicale, qui l'ont traité, bien évidemment, de noir de cour, si je puis dire, ou de Uncle Tim. Hein. On connaît évidemment la case de l'oncle Tom. Donc c'était un raccourci un petit peu facile pour essayer de faire croire que il était le bon noir de service pour les Républicains, mais qu'il ne fallait pas se laisser berner par ce genre de discours. Que le Parti républicain est bien évidemment raciste, qu'il se servait de Tim Scott vraiment parce qu'il était noir et que c'était la seule raison pour laquelle il avait été sélectionné, et qu'il faut pas se tromper de combat, que les États-Unis sont définitivement et essentiellement un État raciste.
Oui, c'est ça. Et que les ancêtres de Tim Scott devraient avoir honte de la déclaration de Tim Scott. Effectivement, le seul sénateur noir républicain dont le discours était rencontré un énorme succès et beaucoup d'audience, infiniment plus en tout cas que le discours de Joe Biden. Joe Biden, hors réseaux sociaux, il y a eu 11 millions d'auditeurs et de téléspectateurs sur les chaînes américaines contre 44 à peu près lorsque c'était Donald Trump qui faisait son discours sur l'État de l'Union. Hein. Un pour quatre, c'est dire l'intérêt que portent les Américains lorsque Joe Biden délivre un discours. Tim Scott, effectivement, a parlé de... Et Joe Biden, naturellement, s'est longuement étendu sur le prétendu racisme systémique qui embrase les États-Unis et qui entache irrémédiablement les États-Unis. Et lui, il a dit que c'était pas vrai du tout, qu'il était la preuve qu'on pouvait passer du « from cotton to Congress », du champ de coton au Congrès, que l'Amérique était le pays le plus au monde donnait sa chance à chacun et qu'il pouvait en témoigner, et qu'en revanche, les pires des insultes raciales, il avait dû les essuyer de la part de démocrates qui le traitent de « Uncle Tim ». Uncle Tim, c'est le pendant, comme vous le rappeliez justement, d'Uncle Tom, c'est-à-dire le bon nègre. Le bon nègre. Et c'est effrayant que le camp du bien, lui, n'ait pas sanctionné lorsqu'il traite un noir de sale nègre. En réalité, c'est rien d'autre que cela. Eh bien, sur Twitter, le hashtag Uncle Tim a fait des ravages. Et Twitter, naturellement, n'a pas supprimé ces postes-là.
Il l'a supprimé, mais avec beaucoup de retard, je pense.
Beaucoup de retard, le temps de laisser à ce fleuve d'insanité se déverser sur ce malheureux Tim Scott.
Oui, tout à fait. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, c'est le Parti démocrate qui est à l'origine de... Parce que vous savez que les États-Unis, au XIXe siècle, même au début du XXe siècle, avaient effectivement des lois aussi racistes et ségrégationnistes.
Sûr, mais c'était le Parti démocrate qui était le parti
de la discrimination. De la discrimination au sud des États-Unis. Il faut même savoir que un fameux Robert Byrd, je ne sais pas s'il vous rappelle de bon souvenir, mais Robert Byrd, c'était un prédécesseur de Nancy Pelosi, un ancien responsable, si je puis dire, au président du Parti démocrate au Congrès, à la Chambre basse, donc un des postes les plus en vue, les plus importants des États-Unis, c'est un ancien membre du Ku Klux Klan.
Oui.
Un ancien membre du Ku Klux Klan.
Mais Joe Biden, pendant la campagne électorale, disait être l'ami des représentants démocrates les plus racistes. Les plus racistes. Je veux dire, le parti de la discrimination, le parti qui a combattu les lois pour mettre un terme à la discrimination raciale, c'est le parti démocrate qui a lutté contre l'adoption des lois qui abolissaient la discrimination.
Abraham Lincoln est un républicain, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Il y a eu infiniment plus de représentants à la Chambre basse et de sénateurs républicains que de représentants démocrates, plus de sénateurs démocrates, qui ont voté l'abolition de ces lois. Le parti du racisme institutionnalisé, c'est le Parti démocrate qui, aujourd'hui, essaye de poser aux représentants des minorités.
Mais c'est une véritable imposture historique. Il faut la redresser parce qu'énormément de gens l'ignorent. Et lorsque moi j'en parle autour de moi, les gens ouvrent des yeux immenses pour dire mais ça n'est pas possible.
Si, tout à fait, ouais,
pourtant, le parti de la discrimination, le parti du racisme, c'est le Parti démocrate. Celui qui a été à la manœuvre pour y mettre un terme, c'est le Parti républicain.
Tout à fait. Et quand ce Robert Byrd est décédé, je pense qu'il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, bien, c'était qui était là pour faire son eulogie? Ben, c'était Joe Biden. C'était son mentor, voilà. A-t-il dit.
Oui. Homme, c'est à ça que je faisais allusion.
Un homme pour lequel il avait le plus grand respect. Oui. Bien, un ancien membre du Ku Klux Klan, rendez-vous compte. Si ça devait être un républicain, ancien membre du Ku Klux Klan, ce qu'on n'entendrait pas sur toutes les chaînes et sur tous les médias, eh bien, lorsqu'il s'agit d'un démocrate, eh bien évidemment, c'est passé sous l'été noir. Alors, il y a un autre... sujet aux États-Unis qui est assez intéressant. On n'a plus parlé des élections américaines depuis un certain temps, puisqu'elles sont derrière nous et que on a dû se rendre à l'évidence, si je puis dire, de la victoire de Joe Biden, puisqu'on en parlait il y a un instant. Sauf que, rappelons quand même que cette élection s'est jouée à très peu de choses.
Hein, 40 000 personnes sur 4
États. Personnes sur 3 États.
3 États.
Arizona, Géorgie et
Nevada.
Et, non, le Wisconsin. 20 000 votes au Wisconsin, 10 000 en Arizona et 10 000 en Géorgie.
Oui, c'est 40 000 personnes. 40 000 c'est 40 000 personnes. qui ont fait le résultat de l'élection.
Et qu'on sait que, bon, il y a eu de grandes contestations, mais pour des raisons qu'on aura du mal maintenant à rediscuter, il n'y a jamais véritablement eu la possibilité de faire des audits sérieux, ni des procès sérieux d'ailleurs, parce qu'ils ont tous été refusés, non pas pour des questions de fond, mais pour des questions de forme. Mais voilà que l'Arizona a maintenant décidé, 4 ou 5
le
ans
Sénat
après,
de l'Arizona, oui.
Le Sénat de l'Arizona a décidé d'organiser un audit qui devrait normalement être très sérieux. L'audit a démarré il y a quelques jours, il devrait se dérouler sur quelques semaines, où ils vont tout passer en revue. Donc c'est assez intéressant parce que d'abord, on se rend compte que ce débat n'est pas totalement clos, hein, bien au contraire, il y a encore des États où... le vote a été extrêmement serré, qui ont suffisamment de doutes sur le résultat de ces élections que pour maintenant, 4-5 mois plus tard, décider de réorganiser un audit approfondi de cette élection. Mais ce qu'on observe également, depuis que cet audit a démarré, c'est que les démocrates d'Arizona font le maximum pour essayer d'empêcher cet audit de se dérouler. Et c'est de procédure en procédure vis-à-vis des tribunaux américains qu'ils essayent d'empêcher cet audit de s'exécuter. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas, on verra bien ce que ça va donner. Enfin, je pense qu'il était intéressant et utile d'informer nos auditeurs que ce volet élection présidentielle 2020 n'est pas totalement clos.
Non, il n'est pas totalement fermé. Mais je peux comprendre les démocrates qui font tout pour empêcher la tenue régulière de cet audit. Et ils n'ont pas mesuré leurs efforts, ils n'ont pas compté leurs efforts pour empêcher la tenue de cet audit. Parce que vous imaginez, si l'examen de chaque bulletin, parce que c'est de cela dont il va s'agir, on va examiner chaque bulletin...
2 100 000 bulletins.
J'allais y venir. Plus de 2 millions de bulletins qui vont être examinés un à un. Les machines Dominion qui vont être examinées une à une, pour savoir si elles étaient reliées à l'Internet et qu'on pouvait interagir sur ces machines à partir de l'étranger, de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne, ou peut-être, allez savoir, de l'Iran, de Moscou ou de la Chine. Vous imaginez si la preuve est apportée qu'il y a eu malversation, qu'il y a eu fraude en Arizona, où la décision a été prise sur 10 000 personnes, seulement.
0,1%.
Voilà. Vous imaginez l'ombre, le voile de suspicion qui va peser alors sur les deux autres États où ça s'est joué à rien du tout, dont le Wisconsin.
Et la Géorgie.
Et la Géorgie. Là aussi, ça s'est joué sur quelques milliers de votes de différence. Les démocrates, c'est tout le résultat de l'élection qui s'en trouvera questionné. Et donc, toute la légitimité de la présente administration, la légitimité du président actuel, qui n'en a déjà pas beaucoup, 47% des Américains disent que ce n'est pas Joe Biden qui est à la manœuvre, que ce n'est pas lui qui dirige les États-Unis, mais c'est Barack Obama avec Susan Rice. Donc, c'est dès le début du mandat de Joe Biden que le président serait un lame duck president, c'est-à-dire un président dépouillé de toute légitimité et donc de tout pouvoir et de tout crédit. Donc, ils sont vent debout contre cet audit. On est au début de celui-ci, on va vous entretenir régulièrement de cette évolution, mais enfin, je doute fort, compte tenu des enjeux, que celui-ci se déroule dans les conditions que le Sénat d'Arizona avait voulu.
En tout cas, les démocrates font le maximum essayer de discréditer déjà la méthode, les entreprises chargées de le conduire. Mm-hmm. Donc effectivement, l'entreprise de démolition des résultats potentiellement embarrassants de cet audit est déjà en cours.
Pour eux, c'est vital. Pour les démocrates, c'est vital. Pas seulement pour la crédibilité de l'administration présente, mais pour l'image du Parti démocrate, pour les générations à venir. Ce serait le parti qui a triché. Au nom du bien, au nom de la démocratie, on s'est assis sur la démocratie.
Alors, quand même, insatisfait pour l'organisation, pour l'administration Biden, sur la Turquie. Joe Biden, la semaine dernière, a pour la première fois reconnu le crime de génocide contre les Arméniens. Ça a été lent et ça a été long. Mais enfin, disons que ça a été fait. Et donc là, je pense qu'il faut reconnaître à Joe Biden... Le bénéfice, si je puis dire, de cette décision.
Je le reconnais, alors là, très volontiers. C'est une décision que je salue et que j'applaudis des deux mains. Et je rends hommage au président des États-Unis d'avoir pris cette décision. Je regrette une chose, c'est qu'elle ne soit pas venue, que cette décision n'ait pas été prise par l'État d'Israël, déjà il y a longtemps. Je sais qu'il y a des considérations stratégiques qui font que Israël hésite à faire le pas de cette reconnaissance, qui a été faite d'ailleurs par le président de l'État, par Reuven Rivlin, mais en tout cas pas par le gouvernement israélien. Je sais qu'il y a des considérations stratégiques, les relations à venir avec la Turquie qu'il ne faut pas insulter, également les liens avec l'Azerbaïdjan qu'il faut sauvegarder, qu'il faut préserver, parce que l'Azerbaïdjan, c'est une fenêtre sur l'Iran, puisque l'Azerbaïdjan et l'Iran partagent une frontière commune, et que l'Azerbaïdjan est très proche de la Turquie. Donc, il y a toutes ces considérations qu'il faut avoir à l'esprit, mais il y a également des impératifs moraux qui font que Israël aurait pu, aurait dû même être ce pays qui reconnaisse que le crime qui s'est produit à partir de 1915 sur la population arménienne relevait bien du génocide. Bon, bravo à l'administration américaine. J'espère que l'administration israélienne suivra, puisque la Turquie est à un genou à terre. Elle est dans une situation particulièrement fragile sur le plan économique, sur le plan financier. Et pour se faire bien voir des Américains, d'ailleurs, les Turcs essayent de se rapprocher des Israéliens. Donc ce serait une manière de montrer aux Turcs qu'on a la mémoire longue en Israël. Et dernière remarque quand même, si je salue sans réserve la décision prise par Joe Biden de déclarer que ce qui s'est produit en 1915 relève bien du génocide, je regrette symétriquement la volonté de cette même administration de se rapprocher de l'Iran qui promet un génocide au peuple juif.
Tout à fait. On reparlera de l'Iran dans quelques instants.
Oui, tout à fait, mais c'était une volonté de faire une transition.
Voilà. On va y arriver dans cette transition dans un instant. Mais simplement pour rappeler, effectivement, et on l'a rappelé rapidement la semaine dernière, je pense, que la Turquie avait été effectivement le premier État musulman
49.
En 49 à reconnaître l'État d'Israël, que c'était un État laïque pendant de très nombreuses années, qui était un allié, évidemment, de l'État d'Israël. Et comme vous le rappeliez il y a quelques instants, Israël, c'est vrai, et a des relations très difficiles avec la Turquie actuelle. Mais bon, elle réfléchit à un peu plus long terme, à une logique politicienne qui est malheureuse, évidemment, mais qui, leur fait prendre la décision de ne pas reconnaître ce génocide, parce qu'ils se disent, qu'après Erdogan viendra un autre régime, et qu'ils gardent l'espoir de renouer des relations d'une autre nature avec un pays qui, dans le Moyen-Orient, reste quand même
tout à fait
stratégique.
Mais ce sont ces considérations-là qui font qu'Israël n'a pas reconnu ce génocide. Moi, j'exprime un regret.
Pour l'instant, les Israéliens ont fait une balance entre leurs intérêts stratégiques et les impératifs moraux. Ils ont arbitré dans le sens des premiers, c'est-à-dire ils ont privilégié les considérations stratégiques. Personne ne peut leur en jeter la pierre. Les États, ce sont des monstres froids qui n'ont pas de sentiments et qui n'ont que des intérêts. On ne va pas en vouloir à l'État d'Israël de faire ce que tous les autres États au monde font, c'est-à-dire de privilégier leurs intérêts stratégiques, et donc ce serait donner raison à John Brennan.
Tout à fait, parce qu'on pourrait quand même se dire que, vu le passé du peuple juif, qu'ils auraient peut-être une plus grande responsabilité que les autres. Non, je sais bien, mais on pourrait éventuellement, sur cet exemple-là, se dire peut-être qu'ils auraient, eux, quand même une plus grande responsabilité que d'autres à reconnaître un génocide, sachant leur passé.
Oui, ouais. C'est pour ça que je dis que j'exprime un regret qu'on arbitre en faveur des considérations stratégiques, même si je les comprends, parce que un État, c'est un monstre froid qui résonne en fonction de ses intérêts stratégiques, qui doit assurer la sécurité de ses citoyens, penser à l'avenir. C'est vrai que les considérations morales, les impératifs moraux ont leur rôle à jouer, en particulier pour un peuple qui a été frappé par un tel désastre, une telle saignée. Je pense que l'État d'Israël se devra un jour de reconnaître ce génocide et d'arbitrer au mieux, de faire au mieux la balance entre cet impératif moral qui pèse sur tous les États, pas seulement sur Israël. Cette reconnaissance devrait être universelle d'ailleurs. Ce n'est pas une exigence qui pèse sur le seul Israël, mais disons que le peuple juif partage avec le peuple arménien cette expérience extraordinairement douloureuse d'une volonté d'extermination.
Mais c'est vrai que le fait que le peuple juif ou Israël ne reconnaisse pas ce génocide donne à la Turquie une forme de légitimité quelque part. Ils peuvent dire au monde, mais regardez, même Israël ne reconnaît pas ce génocide. Donc il y a quelque part là peut-être une double responsabilité.
Personne n'est vraiment dupe. Personne n'est vraiment dupe. Tout le monde sait très bien quelles sont les raisons pour lesquelles Israël n'a pas reconnu ce génocide.
Mais rappelons quand même, d'un point de vue purement historique, que ce génocide, qui date il y a plus d'un siècle, a vu le jour lors des guerres entre les Turcs et les Russes.
Ils accusaient les Arméniens d'être
la cinquième colonne.
Voilà, la cinquième colonne qui
et donc, ils
faisait
ont liquidé
avec les
tous les Arméniens de l'armée turque, et puis ils ont effectivement liquidé environ 90% des Arméniens de Turquie, d'Anatolie en tout cas, avec ces marches de la mort dans des camps de concentration.
Le désert anatolien qui est comparable, ces marches de la mort qui sont comparables aux marches de la mort dans les camps de la mort nazie.
Alors l'Iran, on parlait de l'Iran. Il y a quelques instants, donc parlons-en, faisons un petit peu le point sur ce dossier, ces petits mini-scandales à répétition concernant John Kerry. Donc John Kerry qui était l'orchestrateur, si je puis dire, du premier traité avec les Iraniens, le traité nucléaire, qui maintenant est le tsar, on l'appelle le tsar... pour l'environnement de l'administration Biden, qui se balade en tant que ça dans son avion privé, qui consomme 30 fois plus de gasoline qu'un avion commercial, mais enfin, peu importe. Oui. Pourquoi est-ce que ces deux thèmes sont liés? Parce qu'effectivement, une interview de Zarif, donc le ministre des Affaires étrangères iranien, a fuité. Je ne sais pas très bien dans quelles conditions cette information ou cette interview a fuité, mais en tout cas, dans cette interview... Zarif informe de ce que John Kerry l'aurait informé, lui, des frappes israéliennes en Syrie, enfin aurait dévoilé éventuellement des informations secrètes concernant les opérations israéliennes en Syrie contre les intérêts iraniens, ce qui serait bien évidemment plus qu'embarrassant pour John Kerry. Et il informe également dans cette interview de la rivalité qui semble exister au sein du régime iranien entre les diplomates iraniens dont il serait le fier représentant et les gardes révolutionnaires, donc les militaires, qui auraient, d'après lui, toujours le dessus dans les décisions que prendrait le régime iranien au détriment de ce qui serait éventuellement sa politique modérée du ministre des Affaires étrangères iranien. Voilà, une interview un peu bizarre, qui a fuité de manière un peu bizarre également.
Qui n'était pas destiné à la publication, à rendre public les propos qu'il a tenus. Mais enfin, c'est arrivé à une société, à une organisation iranienne basée à Londres. Ensuite, le New York Times s'en est emparé. Il a fait un papier là-dessus.
spotant, en mettant le focus, l'intérêt particulier sur les révélations qu'aurait faites John Kerry sur les frappes aériennes israéliennes contre les intérêts iraniens en Syrie, qu'il aurait faites donc à Javad Zarif. Bon, personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire que Javad Zarif ignorait que les Israéliens avaient frappé les intérêts de son pays en Syrie. Alors, il semblerait que dans cet enregistrement, on entend John Kerry qui dit à Javad Zarif, Israël vous a frappé 200 fois, est-ce que vous l'ignoriez? Et Javad Zarif qui répond, non, je ne le savais pas. Franchement, j'ai beaucoup de mal à acheter une fable pareille. Je pense qu'il le savait parfaitement. Le problème n'est pas John Kerry dans cette affaire-là. John Kerry traîne de nombreuses casseroles. C'est même pas des casseroles, c'est une batterie de cuisine qu'il traîne derrière lui. Et les malversations ou les actions nocives, hostiles à l'égard de l'État d'Israël, on peut les rappeler. Et c'est cela qui fait problème, pas cette pseudo-révélation sur les 200 frappes israéliennes contre l'Iran, dont Javad Zarif n'ignorait rien. Kerry était un problème pour Israël tout le temps qu'il était secrétaire d'État de Obama. Il continue de l'être aujourd'hui, puisqu'il est membre du Conseil national de sécurité, à plein titre, de l'administration Biden. Donc, il continuera d'être un problème, mais pas pour cette pseudo-révélation. Ce qui est un problème, c'est Zarif. C'est Zarif qui dit, en réalité, moi, je suis le ministre des Affaires étrangères d'un pays dont je ne sais absolument rien de la politique étrangère, puisqu'elle est menée, en réalité, par le corps des gardiens de la Révolution, qui me cache tout. Et qui en réalité me sabote mon travail. Et donc il veut faire accroire l'idée qu'il y aurait des modérés d'une part, dont il serait lui le porte-drapeau avec Rouhani, et de l'autre côté des méchants radicaux qui lui sabotent le travail, alors que lui essaye de renouer les fils avec la communauté internationale. Donc, si vous voulez, vous les Occidentaux, ben pressez-vous de faire affaire avec moi, parce que au mois de juin il y a des élections législatives et présidentielles, et qui sait sur qui vous allez tomber. En réalité, celui qui a perdu le plus de crédit, c'est celui qui dit qu'il n'a aucun pouvoir. C'est donc Zarif. Et donc aujourd'hui, Zarif aurait dû être mis aux oubliettes, ou bien il aurait dû être un mort. Normalement, c'est un dead man walking. C'est quelqu'un qui, en plus, il a touché à l'image sacrée, iconique de Qassem Soleimani, qui a été éliminé le 3 janvier 2020 par les Américains. Il a dit de ce martyr qui est une figure de tout premier plan.
C'était, d'après CNN, le général de Gaulle iranien.
Voilà, le général de Gaulle iranien, et puis le chouchou, le favori de Khamenei. Donc, toucher à cette image-là, à cette figure, c'est presque une profanation. Donc cet homme-là, qui a osé des propos pareils, ben, je veux dire, comme au bon temps de l'URSS, on devrait effacer ses photos de toutes les archives. Pourtant, il est encore là, Javad Zarif. En réalité, c'est le visage présentable du régime iranien qui essaie de tout faire pour duper les gens et laisser penser qu'il y a d'un côté des modérés et de l'autre il y a des radicaux et qu'il faut privilégier les premiers et pour empêcher les seconds d'avoir trop de pouvoir. Ce que Zarif vient de nous dire, c'est qu'en réalité, les radicaux dirigent le pays. Ah, mais quelle affaire, cela! Je veux dire, ça devrait secouer, ça devrait réveiller un peu les Occidentaux et se dire, on perd son temps. On perd son temps avec des gens qui, en réalité, nous racontent des fariboles.
Alors ils font tout sauf perdre leur temps, parce que, enfin, en tout cas, ils passent beaucoup de temps, en tout cas, à Vienne.
Oui.
Même si je pense que les discussions sont suspendues pendant quelques jours, mais enfin, ils passent pas mal de temps à Vienne à essayer de renouer le dialogue avec l'Iran, par l'intermédiaire des Européens, puisqu'ils refusent les Iraniens toujours de rencontrer directement les diplomates américains. Mais donc, c'est pour parler, pour essayer de renouer le dialogue et de réintroduire les États-Unis dans ce fameux accord nucléaire sont toujours en cours. Bon, il y a des informations un peu contradictoires qui nous reviennent des différents diplomates sur le degré d'avancement ou pas de ces pourparlers, mais on sait également qu'il y avait une délégation israélienne importante qui s'est rendue à Washington la semaine dernière pour essayer d'infléchir la direction américaine dans ce dossier. Est-ce qu'il y a De votre côté, Isaac, des informations que vous avez sur ce qui aurait éventuellement Alors, débouché de ces réunions israélo-américaines à Washington.
Avant l'arrivée de cette délégation israélienne, qui comprenait le responsable du Conseil de sécurité israélien, Meir Ben Shabbat, et puis le patron du Mossad, Yossi Cohen, devait être accompagné également de Kochavi, donc le chef d'état-major israélien, qui a dû rester en Israël pour gérer cette éruption de violence qu'on a observée à Jérusalem et à partir de Gaza. Et donc ces deux hommes se sont rendus aux États-Unis. Mais ce que je note, c'est avant qu'ils ne foulent le sol américain, il y avait dans une conférence de presse tenue par la porte-parole de l'administration Biden, Jen Psaki, il y a eu un journaliste qui a posé la question à Jen Psaki, est-ce que vous pensez que l'arrivée des Israéliens est susceptible, avec les informations qu'ils vont amener et qu'ils vont transmettre au président, est-ce que vous pensez que c'est susceptible de changer la volonté des Américains de réintégrer l'accord sur le nucléaire iranien ? Et elle avait répondu d'une façon très laconique, mais très assertive, non, il n'y a strictement aucune chance. Ce qui veut dire que l'administration américaine faisait passer le message aux Israéliens, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus, on va vous écouter, mais de toutes les façons, on ne va pas tenir compte de ce que vous allez dire, parce que de toutes les façons, ça ne va pas changer notre ambition de réintégrer l'accord sur le nucléaire iranien. Alors, ce qui s'est dit à l'ambassade d'Israël, parce que ça s'est passé à l'ambassade d'Israël, physiquement, il a fallu la sensibilité des informations que les Israéliens disent vouloir transmettre aux Américains est tellement importante que cela devait se faire de façon physique et pas de façon virtuelle par l'éther, je ne sais pas comment parler. Mais donc, ils se sont rencontrés physiquement. Est-ce que ça a changé la vie des Américains ? Je ne sais pas. Je sais une chose, et ça, ce n'était pas du tout prévu au programme, c'est que Biden a reçu pendant une heure Yossi Cohen. Alors, ils se connaissent déjà depuis plusieurs années, mais ils se sont rencontrés pendant une heure. C'est considérable. Je ne suis pas sûr qu'une heure soit le temps d'attention que Joe Biden, l'autonomie d'attention que Joe Biden dispose aujourd'hui. Mais en tout cas, il aurait reçu Yossi Cohen pendant une heure. Est-ce que ça va changer les choses ? Je n'en sais rien. En tout cas, Joe Biden aurait déclaré à Yossi Cohen qu'on n'est pas prêt. C'est les Américains. Les Américains ne sont pas prêts. De réintégrer l'accord sur le nucléaire iranien. On n'y est pas encore. Bien. Est-ce que s'il y a un fond de vérité à cela, ou est-ce que les Américains cherchent à endormir les Israéliens ? En tout cas, les Israéliens ont réaffirmé des principes qui doivent être clairs et entendus par les Américains, c'est que la liberté d'action des Israéliens ne peut pas être questionnée. Et l'ambition des Américains, si vraiment ils veulent réintégrer cet accord sur le nucléaire, il n'y a aucun doute que les Iraniens vont demander aux Américains de faire pression sur les Israéliens pour qu'ils cessent de leur taper dessus en Syrie ou en Irak. Et alors là, ça risque de provoquer des tensions entre l'administration américaine et l'administration israélienne. Voilà à peu près où on en est actuellement.
Très bien. Alors parlons un petit peu d'Israël, parce qu'effectivement, l'une des difficultés qu'ont les Israéliens, j'imagine, dans leurs discussions avec les Américains, c'est le peu de crédibilité qu'ils ont aujourd'hui, vu le champ de ruines dans lequel se trouve le paysage politique israélien à l'heure où nous nous parlons. Puisqu'on est à un jour, je pense, de l'échéance, la première échéance qu'avait Benjamin Netanyahu pour tenter de former un gouvernement. Et bon, à ce jour, on ne voit pas poindre un nouveau gouvernement et on n'anticipe pas qu'un gouvernement n'apparaisse d'ici demain, minuit. Donc Isaac, quels sont tout derniers faits importants ?
Il paraît impossible pour Netanyahou de mettre en place une coalition et donc un gouvernement. L'arithmétique ne lui est pas décidément pas favorable, donc il n'y arrivera pas. Maintenant, est-ce que la coalition anti-Netanyahou, celle qui avait pour unique programme commun, je dirais, de se débarrasser du Premier ministre actuel, est-ce qu'elle va réussir à rassembler des suffrages en nombre suffisant pour monter une coalition, même minoritaire et soutenue de l'extérieur par RAM ? C'est là toute la question. Effectivement, il y a eu énormément de pourparlers entre Gideon Saar de Tikva Hadasha et de Bennett de Yamina, avec également Yair Lapid, et entre Bennett avec Mansour Abbas de RAM. Et finalement, Bennett a accepté le principe d'être soutenu de l'extérieur par un parti islamiste. Il faut dire que là, Benjamin Netanyahou a une responsabilité, puisque c'est lui le premier qui a cherché, eh bien, à monter une coalition soutenue de l'intérieur ou de l'extérieur par Ram. Et donc, c'est Benjamin Netanyahou qui a cachérisé, si vous voulez, le parti Ram. Et donc, tous les autres partis aujourd'hui se sentent parfaitement libres, se sentent à l'abri de la critique du Likoud, de faire une alliance.
Et surtout les partis de gauche et de centre-gauche.
Bien sûr. Et même pas seulement. Puisque on voit, même Yamina, qui est un parti de droite, à la droite du Likoud, on voit Tikva Hadasha de Gideon Saar, qui est aussi à la droite du Likoud, accepter le principe, pour se débarrasser de Netanyahou, de payer le prix d'une coalition qui serait soutenue, minoritaire, mais qui serait soutenue par les quatre voix indispensables du parti Ram de l'extérieur. Voilà, on va voir, sauf retournement de dernière minute, qui est toujours possible avec Benjamin Netanyahou. On sent bien que dans les cartes ne lui sont absolument plus favorables.
Alors, qu'est-ce qui se passera après-demain, si je puis dire, puisque faisons l'hypothèse qu'il n'arrive pas à former son gouvernement. L'une des possibilités, mais elle ne semble pas probablement devoir retenir l'attention de Rivlin, ce serait de lui donner 2 semaines d'extension, ou bien de nommer un autre candidat formateur. Qu'est-ce qui se dit en coulisses, si je puis dire, sur ce que prendra comme décision Rivlin ?
Il est très possible que Benjamin Netanyahou demande les 2 semaines supplémentaires. Rivlin a toute latitude pour accepter ou pour refuser. Ça sera sa libre appréciation. Il estimera que ces 2 semaines sont une perte de temps s'il pense que la situation va être la même les 14 prochains jours que les 28 jours écoulés. Et donc, c'est une perte de temps. Il va refuser. Ou alors, eh bien, Netanyahou va lui dire quels sont les plans qu'il a à l'esprit pour faire que ces 14 jours produisent un résultat différent de celui des 28 premiers jours. Je pense que compte tenu de l'aigreur qui existe également entre les deux hommes, le discours de Netanyahou risque d'être mal reçu par le président de l'État, et donc une telle demande pourrait ne pas recevoir la fin souhaitée par Benjamin Netanyahou. Donc la deuxième étape, eh bien, c'est le président de l'État qui va recevoir à nouveau les chefs de parti, qui va sonder les reins et les cœurs pour savoir s'il doit passer soit... s'il doit confier le mandat soit à celui qui est arrivé deuxième, ou sauter cette étape et passer directement à la troisième, qui consiste à demander à n'importe quel représentant de la Knesset si, sur son nom, il peut réunir, eh bien, 60 autres représentants pour avoir une coalition. Voilà. Et là, c'est au président de l'État à apprécier si ça vaut la peine de passer par Yair Lapid, qui serait alors formateur. Et dans le cadre des négociations ou des discussions qui ont lieu entre Yair Lapid et Bennett, il semblerait que Yair Lapid aurait proposé à Bennett de prendre la première rotation pendant 2 ans du gouvernement bicéphale qu'il constituerait.
Bon, il n'y a pas très longtemps encore à patienter, on verra voilà. Ce qui va se passer après-demain et la décision que prendra Rivlin. Isaac, que vous inspire les noms suivants ? Steinitz, Bronstein, Kasparov, Lasker.
Bon, vous parlez d'échecs, là.
Je vous parle d'échecs. Boris Gelfand.
Vous parlez d'échecs.
Bobby Fischer.
Oh là là.
Et d'autres noms. Que vous inspire ces noms-là ? Je vous les cite. Pourquoi ? Parce que...
Des grandes heures d'échecs.
Il faut savoir, une étude a été réalisée récemment. C'est toujours des exercices très compliqués de décider qui est le plus grand joueur d'échecs de tous les temps. Mais des études sérieuses sont menées aujourd'hui où, avec l'aide des ordinateurs, on peut analyser les parties jouées il y a 50 ans, il y a 100 ans par ces grands maîtres de l'époque pour vérifier chacun des coups qu'ils ont joués et vérifier si chacun de ces coups était le meilleur coup suggéré par les meilleurs ordinateurs. Des analyses de ce type se réalisent de plus en plus pour essayer d'établir des classements sur base de qui dans son histoire du jeu d'échecs, a, en proportion les plus élevées, réalisé les meilleurs coups réalisés par les meilleurs ordinateurs de l'époque actuelle. Et donc, toute cette analyse a été faite. Et elle montre que si vous prenez les 50 meilleurs joueurs selon ce type d'analyse-là, la moitié sont des juifs. C'est quand même une fierté que l'on peut avoir. Mais je mentionne ça pourquoi ? Parce que cette longue liste de champions du monde que j'ai nommée il y a quelques instants, ça faisait quand même un certain temps que nous n'avions plus un champion du monde juif au jeu d'échecs. Vous savez, moi je suis un immense fan du jeu d'échecs. Je joue beaucoup aux échecs, même si j'ai un niveau, je dois l'avouer, relativement médiocre.
Je pensais que vous étiez dans les 50.
Non, je ne suis pas dans les 50, Isaac. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on aura peut-être, je crains que non, parce que l'adversaire est très redoutable, mais on aura en tout cas, en finale du championnat du monde, un russe juif, un dénommé, un nom très compliqué, Ian Nepomnichi, qui a gagné il y a quelques jours le tournoi des candidats. Le tournoi qui fait concourir les 8 meilleurs joueurs, c'est le vainqueur de ce tournoi qui a l'honneur
d'affronter le champion du monde.
D'affronter le champion du monde en titre, qui est un dénommé Magnus Carlsen,
et qui nous
un joueur redoutable, qui dans ce classement des 50 apparaît comme le numéro 1, hein, qui aurait en proportion effectué le plus de meilleurs coups du jeu d'échecs lorsqu'on analyse ses parties. Donc au mois de novembre et au mois de décembre se dérouleront, je crois, à Abu Dhabi ou à Dubaï, ce championnat du monde entre Ian Nepomnichi, un juif russe, et Magnus Carlsen. J'invite tous les fans du jeu d'échecs à suivre cette compétition sur Internet, si ça les intéresse.
Bah, vous me dites les juifs champions d'échecs. Moi, je suis fan des juifs champions de réussite, si vous me permettez cela. même si j'ai pas le même intérêt que vous pour le jeu d'échecs, mais en tout cas un intérêt marqué quand même. Je voulais parler dans les 2 ou 3 minutes qui nous restent des élections palestiniennes, puisqu'on n'a pas parlé. On a parlé du chaos qui règne dans la vie politique israélienne. Il y a un chaos symétrique dans la société palestinienne, puisque ces élections qui devaient se tenir le 22 mai. Pour les élections législatives et présidentielles le 31 juillet, eh ben, elles ont été reportées sine die. Et évidemment, Mahmoud Abbas n'a rien trouvé de mieux, mais ça c'est classique, dans son discours, de faire peser la responsabilité de ce report sur Israël, qui aurait refusé aux Palestiniens le droit d'organiser des élections dans la capitale israélienne. C'est quand même un comble. Il savait parfaitement que Israël n'allait pas accepter et que s'il voulait faire voter les 150 000 Palestiniens enregistrés sur les listes électorales palestiniennes, mais il n'avait qu'à mettre en Judée-Samarie, en dehors de la municipalité de Jérusalem, eh bien les urnes utiles pour permettre aux Palestiniens résidents en Israël et qui disposent d'ailleurs d'une carte de résident, hein, pas citoyen israélien, mais des résidents de la ville de Jérusalem, le pouvoir de voter. Donc, il sait très bien qu'il allait à la ruine, qu'il allait à l'échec, parce que le Fatah allait en ordre dispersé, au moins 3 listes, alors que le Hamas, lui, il y allait comme un seul homme. Et donc, il a préféré prévenir la catastrophe. Il faut dire aussi une chose, c'est que ça fait également plaisir aux Israéliens. D'abord parce qu'il n'y a personne pour traiter cette question, puisqu'il y a un vide politique en Israël, ce qui est déjà éminemment dommageable, mais pas seulement sur ce plan-là, mais parce que le Hamas était donné largement favori, et que s'il l'emportait, comme tout le laissait entendre, eh bien, il se poserait alors la question de savoir ce qu'on fait de cette reconnaissance d'un gouvernement où le Hamas apparaîtrait majoritaire, ou un parlement où le Hamas serait majoritaire.
Tout à fait. Écoutez, Isaac, on a peut-être une petite minute alors pour une petite anecdote woke.
Oui.
Ça fait longtemps qu'on ne parle pas de woke. Mais vous savez, Isaac, ils ne vont pas arrêter de nous surprendre, hein, nos amis woke, parce que maintenant c'est Blanche-Neige.
Oui, j'ai vu ça.
Blanche-Neige pas tellement Blanche-Neige, plutôt le prince charmant, hein, qui aurait embrassé Blanche-Neige à l'insu de son plein gré, comme on dit. Hein. Ce n'était pas un baiser consensuel.
Voilà.
Et donc maintenant, il faut que Walt Disney modifie son histoire, parce que ce n'est plus possible de raconter aux petits-enfants que le prince charmant est réveillé Blanche-Neige grâce à un baiser non consensuel. Isaac.
Comment voler le rêve des enfants ?
Voilà.
Voilà.
Cette triste conclusion. On dit
exactement.
Bonsoir et bonne semaine à tout le monde.
À la semaine prochaine, au revoir.